Radio Grand Ciel présente Écho de ma commune, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Paolo Davi. Au micro, Christiane Blain. C'est à Verneuil-sur-Avre que j'ai rencontré le docteur Huyn. Médecin anesthésiste à la retraite, il a évoqué pour moi l'association Amitié Solidarité France-Vietnam. Et je dois dire que cela m'a beaucoup touchée. Et puis, il est devenu le président en 2017. Docteur Huyn, bonjour.
Bonjour, Christiane Blain.
Alors, peut-être pourriez-vous évoquer pour nous votre parcours, votre naissance, vos études, votre mariage et aussi vos rencontres, parce que vos rencontres ont été extrêmement importantes dans votre vie et aussi dans celle de votre famille et dans celle de nombreux amis.
En effet, je suis né à la Saint-Valentin, 1953. C'est une date mémorable.
Et où ? Et
je suis né à Saïgon, actuellement on l'appelle Ho Chi Minh Ville, mais de mon temps c'était Saïgon. Donc je descends de quatre générations de catholiques, et d'autre part je suis né français, parce que nous sommes naturalisés à quatre générations français. Donc j'ai fait mes études primaires au Vietnam, et je suis venu en France en 1967. Et là, j'ai fait mes études secondaires, puis universitaires.
Vos parents sont restés...
Mes parents sont restés au Vietnam, puis en 1973, en raison des événements et de la tournure politique de la guerre, étant français, ils sont partis et ils sont revenus en France. Et nous avons commencé notre vie en France à partir de 1973.
Voilà. Donc, vos études, vous les faites en France ?
Mes études, je les ai faites à l'Académie de Versailles pour les études secondaires.
Vous habitiez Versailles ?
J'habitais Soisy sous Montmorency. C'était charmant comme coin, pas loin d'Enghien-les-Bains.
Oui.
Et ensuite, j'ai fait mes études de médecine à la faculté de Broussais, au Tendieu, à Paris.
Oui.
Et là, ensuite, j'ai fait un cursus de spécialisation à Paris Descartes en anesthésie.
Oui. Et pourquoi vous avez choisi l'anesthésie ?
Écoutez, pendant que je faisais mes études de médecin anesthésiste, mes études de médecine surtout, dans mon environnement, tous mes amis, mes parents, mes proches parents, ils me voyaient asiatique, donc médecin, ce serait bien que je fasse de l'acupuncture.
Ah.
Mais en stage interné en fin d'études,
oui.
J'ai travaillé dans un service d'urgence, et là j'ai découvert le travail merveilleux des anesthésistes réanimateurs, ça m'a beaucoup plu. Donc, je me suis embarqué là-dessus.
Ah oui. En fait, c'est un peu la même... Enfin, je ne dirais pas la même chose, mais c'est la même finalité quand même.
Oui, mais c'est une nouvelle porte ouverte encore, parce que dans cette spécialisation, il y a d'autres spécialisations, l'anesthésie, la réanimation, la douleur, l'échographie, l'hypnose, il y a tout ça qui sont tout autour. Et en fait, c'est un métier où on ne s'ennuie pas.
Ben non, certainement, certainement. Alors, vous vous êtes marié ?
Alors, j'ai rencontré, en début d'études universitaires, mon épouse, Brigitte.
Une beauté et un amour de femme.
Surtout charmante.
Oui.
Et avec Brigitte, nous sommes mariés. Brigitte était protestante. Donc, nous avons fait le premier mariage œcuménique à Verneuil-sur-Avre.
Ah oui ?
Ah oui, Brigitte avait fait venir son pasteur. Et puis, nous avons l'aumônier de l'hôpital aussi, oui. Qui nous a mariés en présence du prêtre de la paroisse.
Oui, très bien. Oh, je ne savais pas ça.
Mais, par la suite, nous avons eu nos 5 enfants. Et ils ont tous une éducation catholique.
Oui.
Et comme Brigitte n'a pas de temple protestant à proximité, et qu'elle a vu comment nous procédons sur le plan rite catholique pour l'éducation religieuse, finalement Brigitte a demandé à se convertir à la pratique catholique. Voilà. Donc Brigitte est convertie par l'évêque d'Évreux.
Donc maintenant, vous êtes tous catholiques.
On est tous catholiques.
Et alors justement, vous allez évoquer maintenant cette amitié qui vous lie au Vietnam. Et j'aimerais savoir comment ça a commencé. Enfin, on le sait un peu déjà,
oui.
Mais...
Oui, au début, en fait, à Verneuil-sur-Avre, nous sommes proches d'une communauté des sœurs de Saint-Paul de Chartres.
C'est ça.
Et dans cette communauté, la plupart des sœurs sont d'origine vietnamienne. Ce qui fait que ça...
C'était formidable quand même, parce que c'est assez rare, j'imagine.
Assez rare, mais ça nous a beaucoup rapprochés.
Bien sûr.
Et comme en 40 ans, nous avons vu beaucoup de sœurs religieuses vietnamiennes, nos liens se sont consolidés ainsi.
Oui.
Et c'est par ce biais, nous avons pris connaissance d'événements sociaux, d'événements sociaux qui se passent au Vietnam et qui nous permet de faire des projets.
Et vous-même, vous étiez resté en relation avec des amis du Vietnam ou de vos parents ou...
Toute ma famille paternelle et maternelle ont émigré.
Ah oui.
Donc une partie sont aux États-Unis, l'autre partie est en France. Et là, en fait, je faisais partie aussi d'une ONG, La Phrase, qui est une organisation de médecins anesthésistes français.
Alors, dites-nous, est-ce que ce sigle-là...
C'est l'anesthésie pour le développement de l'anesthésie loco-régionale en Asie du Sud-Est.
Très bien.
Donc là, c'est une ONG où sont volontaires des médecins anesthésistes français. Et nos missions consistent à encadrer nos confrères au Cambodge, au Laos et plus tard sur le Vietnam pour la pratique de l'anesthésie loco-régionale par échographie.
Alors ça, c'était en quelle année vous avez commencé à participer à cela ?
Oh, nous avons commencé en 2006.
2006.
Et là,
oui, parce que vous étiez en même temps médecin anesthésiste à Versailles.
Non, j'étais médecin anesthésiste à l'hôpital de Dreux.
Oui.
Ensuite, à l'hôpital de L'Aigle. Et enfin, je pratique à la clinique Saint-François à Chartres les 20 dernières années.
Oui. Donc, c'est à ce moment-là que vous commencez à sentir que vous seriez très utile au Vietnam.
Disons, ça me rapproche parce que ce sont mes racines.
Voilà.
Et que c'est une autre façon d'être utile, dans la mesure où l'anesthésie, ça me rapproche de mes confrères vietnamiens.
Oui.
Et par ce biais-là, ça nous a permis de tisser des liens sur le plan professionnel, mais aussi personnel. Et là, maintenant, je suis très attaché avec des médecins anesthésistes de Saigon.
Oui.
Nous les avons reçus en France. Où ils sont venus en stage
à l'hôpital,
à la clinique avec moi.
À la clinique, oui.
Et là, nous avons un turnover d'une dizaine de médecins anesthésistes de Saigon.
Ah,
et depuis,
bien.
Nous sommes en relation. Comme je suis à la retraite maintenant, donc je suis en retrait, mais nos liens d'amitié continuent.
Ah, c'est merveilleux. Donc, vous avez donc fait une association pour pouvoir aider. Aider des gens au Vietnam. C'est bien cela.
Oui, en fait, cette association a été créée en 1994 par Madame Minh Cécile, mais qui...
Et qui est cette dame?
Cette dame, c'est une dame qui est une ancienne cadre d'une EHPAD et qui, à la retraite, s'est dévouée dans la région de Dreux pour récolter des dons... et qui permet d'équiper des dispensaires, des écoles, des écoles de formation professionnelle au Vietnam.
Oui.
Et par ce biais-là, mais cette dame a pris de l'âge.
Oui.
Elle était à 92 ans, elle était déjà un peu épuisée.
Ah oui, quand même.
C'est pour ça que les adhérents de l'association m'ont demandé de prendre la succession.
Donc maintenant, vous êtes président.
Donc, je suis président depuis 2017 de cette association. Et là, l'association aussi a deux buts actuellement. Le premier, c'est continuer les échanges de médecins entre l'hôpital de la Poste à Hanoï avec l'hôpital de Dreux. Tous les ans, nous faisons des échanges de chirurgiens ou de médecins
oui.
qui viennent en France pendant un mois pour faire un stage. Et d'autre part, nous avons revu un peu notre action au Vietnam. Et là, c'est grâce aux sœurs de Saint-Paul-de-Chartres.
Ah oui.
Ah, je vous raconte cette anecdote, parce qu'un jour, une sœur m'a dit, vous savez, monsieur Huynh, au Vietnam, dans le village où je suis, il y a des enfants qui vont à l'école à pied. Des ah bon, mais c'est courant, ça. Oui, mais des fois, ils sont à 7 kilomètres de l'école. Donc, j'ai dit, ah oui, c'est différent quand on a entre 5 ans et 10 ans, faire 7 kilomètres aller-retour les jours. Surtout quand il n'y a pas de cantine en plus.
Ah là
donc,
là
ça
là
fait
là
beaucoup là de déplacements. Donc, j'ai envisagé éventuellement de faire une campagne de ramassage de bicyclettes pour pouvoir leur adresser.
Ah oui.
Mais malheureusement, techniquement, ce n'est pas possible. Parce que l'État vietnamien n'accepte pas du matériel d'occasion.
Ah.
Donc il faut du matériel neuf, donc ça veut dire qu'il faut des fonds. Donc, par conséquent, au cours d'une de mes missions en anesthésie à Saigon, je suis parti dans ce village.
Oui.
Et j'ai rencontré le prêtre de la paroisse qui m'a montré le village, ce qu'il faisait, surtout pour aider les enfants pauvres.
En difficulté, oui.
En difficulté. Et là, notre association a commencé à, tous les ans, envoyer deux fois par an des colis alimentaires pour la fin d'année, pour les têtes. Et ensuite, par ce biais, comme nous étions dans le village avec le prêtre, nous étions intrigués par une petite fontaine dans la cour de la paroisse. Alors je lui ai demandé, mais qu'est-ce que c'est ça ? Alors le prêtre m'a expliqué, vous savez, ici, on est en montagne. Et on n'a pas l'eau courante. Par conséquent, on n'a pas d'eau potable. Elle dit, moi, quand le presbytère a été construit, Caritas m'a donné deux bidons de filtration par osmose où je peux disposer de 250 litres par jour d'eau potable.
Ah là là.
Alors je la relis à une fontaine dans la cour du presbytère. Comme ça, tous les gens qui en ont besoin, ben, ils viennent se servir gratuitement. Et là, ça m'a sensibilisé. Parce que
oui,
je dis,
j'imagine.
Mais votre village, vous avez combien d'habitants là ? Elle dit, ben, on est à environ 10 000.
Ah là là, ça ne fait pas beaucoup d'eau par personne, ça.
Non, mais il a dit, mais dites-moi, comment vous fournissez en eau potable ? Elle dit, ben, écoutez, ceux qui en ont les moyens, eh bien, écoutez, ils achètent des bonbonnes de 20 litres. Mais les autres, ben, ils viennent avec leur cyclomoteur. Avec des petits bidons de 5 litres, ils se remplissent leurs bidons, et puis ils rentrent chez eux, ils reviennent quand ils peuvent pour chercher l'eau potable.
C'est terrible, ça.
Et là-dessus, j'étais intrigué, je dis, mais l'eau courante, comment vous faites pour l'avoir ? Elle dit, bah, écoutez, on le fait par siphonnage, par des tuyaux, là, mais dans une source de montagne, et l'eau est saumâtre.
Ah.
Donc, il faut qu'on a recueilli l'eau, faut la faire décanter, faut chercher par tous les moyens de la filtrer, mais il n'y a pas de garantie que l'eau soit potable, aseptique. Donc, à partir de ce moment-là, nous avons orienté un peu notre action de l'association en dehors de l'échange médical et d'alimenter les équipements des dispensaires et tout. Nous avons axé ça sur l'eau potable. Et en rentrant, nous avons cherché un peu les moyens. Comment les aider à pouvoir disposer de l'eau potable. Et là, nous avons contacté une association, une ONG française, Safe Water Cube.
Eh bien, peut-être nous allons marquer une pause pour que nous puissions reprendre tout à l'heure.
Mais avec plaisir. À tout à l'heure.
Oui, alors cette action locale dans ce village, c'est extrêmement important parce que vous avez en quelque sorte bouleversé tout ce qui n'existait d'ailleurs pas encore, malheureusement. Alors comment avez-vous fait ?
Alors effectivement, il n'y a pas de réseau de distribution de l'eau, il n'y a pas de station d'épuration.
Oh là là.
Et que le problème, c'est l'hygrographie locale. C'est-à-dire qu'il y a environ 1200 mm de précipitations par an, mais c'est une région qui est dominée par la sécheresse. Alors c'est paradoxal ce que je dis. C'est-à-dire que de février jusqu'au mois de septembre, il pleut très peu, c'est la saison sèche.
Ah oui.
Et que d'autre part, dans cette région, les pluies sont variables. Quand je dis 1200 mm d'eau par an, les gens se disent, mais ils ont de l'eau. Mais c'est 1200 mm d'eau, quand il y a une tempête, un cyclone, eh bien écoutez, en 24 heures, vous avez déjà 300 mm d'eau. Donc a priori, tout au long de l'année, même en saison humide, le problème qui se pose, c'est d'avoir des réserves d'eau.
Oui. Alors donc, ça doit être très complexe.
C'est complexe parce que déjà, pour les nappes phréatiques, on a fait des sondages profonds, jusqu'à 80 mètres, on n'a pas d'eau.
Ah là 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 là.
Donc, d'autre part, il y a une rivière, mais la rivière, par les saisons sèches, bah, écoutez, elle est diminuée de 2/3.
Et là, il y a combien d'habitants, là ?
C'est une population d'environ 10 000 habitants.
Ah là là.
Donc là, notre action première, c'est déjà, c'est par nos actions locales en France, c'est de fournir des moyens pour qu'ils creusent un grand réservoir de recueil. Donc ce qui a été fait en 2019.
Et alors là, combien on a pu recueillir de...
Dans ce réservoir, c'est un réservoir qui nous donne une réserve de 100 mètres cubes environ. 100 mètres cubes pour une population comme ça, je pense que ça peut tenir 4 mois. Et puis le fait de devoir creuser ce réservoir, en fait tous les hameaux autour, là, ils se sont mis à
faire
creuser
pareil.
Aussi, à faire des petits réservoirs, mais chacun a le sien. Et entre-temps, pour le remplir, en 2020, pour le remplir, ils avaient des problèmes aussi avec les précipitations, donc notre association a fourni une pompe.
Ah,
une pompe pour puiser dans les rivières qui se trouvent à 500 mètres.
Mais alors, il fallait des pompes spéciales ?
Non, c'est une pompe ordinaire, mais qui marche sur l'électricité.
Mm-hmm.
Parce que si nous fournissons des pompes qui doivent être branchées sur groupe électrogène, ça va compliquer encore les investissements, aussi bien que au niveau du fonctionnement aussi.
Eh
donc
oui.
Là, en jonglant avec l'électricité et tout, on arrive à pomper de l'eau pour remplir ces réservoirs. Deuxième problème qui se pose, maintenant qu'on dispose de l'eau, il faut la rendre potable.
Ah oui.
Et là,
parce que jusque-là, il n'y avait pas d'eau potable, en fait.
Il n'y a pas de réseau d'eau potable. L'eau potable, pour ceux qui ont les moyens, ils les achètent en bobonne. Et pour les autres, il faut qu'ils décantent.
Et comment se fait-il qu'il y ait eu un village sans eau ?
Mais il n'y a pas que ce village qui ne soit pas sans eau. Dans toute la province, il n'y a pas de réseau de distribution de l'eau.
Ah là là là.
En dehors des grosses agglomérations où ce circuit de distribution existe, mais dans l'arrière-pays, là où nous sommes en région de montagne, il n'y en a pas. Donc,
c'est dramatique, ça, quand même. Parce que quand on n'a pas les moyens, c'est heureusement que vous êtes arrivés. Ils ont dû...
Je ne suis pas un sauveur, parce qu'ils se sont débrouillés jusqu'ici. Mais il faut savoir que, ne disposant pas d'eau potable stérile, il y a
ça.
Les maladies infantiles, il y a les absentéistes à l'école, il y a tout ça. Donc, a priori, faut tenir ça en considération. C'est pour ça que nous avons pris contact avec une ONG française.
Oui.
Qui s'appelle Safe Water Cube.
Ça veut dire sauver l'eau, quoi.
Fournir de l'eau saine, qui a été créée par une équipe d'ingénieurs français. Et leur matériel est reconnu par l'agence de l'eau.
Ah, oui.
Donc, ce qui fait qu'en cas de catastrophe et tout, l'agence de l'eau recommande cette ONG qui a déjà fourni ses cuves pour filtrer l'eau.
Et où elle est, cette ONG ?
Elle se trouve du côté de Nantes.
Oui.
Et l'avantage,
vous êtes allé les voir.
Oui, je suis allé les voir. Et l'avantage de ce matériel, c'est qu'il ne nécessite ni de produits chimiques, ni d'énergie pour les faire fonctionner. C'est purement mécanique.
Ah oui.
Et l'avantage, c'est une fois filtré, ça fournit de l'eau potable, stérile.
Ah oui. Mais alors ça existe quand même depuis longtemps à Nantes ce...
Cette ONG existe depuis plus de 15 ans déjà. Elle a travaillé sur Haïti, oui. Elle a travaillé en Afrique, dans le Sahel. Elle a travaillé aussi au Cambodge, où autour de l'arc Tonlé Sap, ils ont distribué des dizaines de filtres.
Et elle vit avec des dons essentiellement ?
Elle vit des dons. Je ne sais pas comment elle fonctionne, mais a priori, elle est recommandée sur le plan gouvernemental.
Ah oui.
Ils en ont distribué aussi au Laos. Et là, c'est à deux pas de mon village.
Ah.
Donc, par ce biais-là, nous avons pris contact avec M. Augereau, qui est son président. C'est un homme un ingénieur très actif.
Que vous avez vu à Nantes ?
Que j'ai rencontré chez lui à Nantes. D'ailleurs, il a ouvert une ferme pédagogique.
À Nantes, à côté de Nantes aussi ?
Oui, à côté de Nantes, où il développe la permaculture... l'apiculture, tout
et
ça.
Alors, ils vivent de dons aussi
Ils vivent des dons faits à leur association.
Ah oui.
Et ces dons-là sont redistribués sous forme de filtres
qui
fournissent dans le monde.
Ah oui. Donc, grâce à ces ONG, en fait, des gens peuvent vivre correctement.
Peuvent disposer d'eau potable correctement.
Ah. Oui, c'est ça.
Donc là, évidemment, je les ai contactés avant le confinement.
Oui.
Et puis pendant les 2 ans de confinement, je n'ai plus de nouvelles.
Alors ?
Et puis un jour, en rentrant chez moi, j'ai dit, mon Dieu, où est-ce qu'on en est cette histoire pourvu que je puisse faire aboutir cette histoire film pour que ces gens-là aient de l'eau potable ? Donc je n'y pensais plus. Et puis la semaine suivante, j'ai eu un appel du président de cette association française,
oui.
Qui m'a dit, Alain, j'ai 8 filtres à t'offrir.
Ah, c'est le bonheur.
C'est le comble, c'est le bonheur.
Ben oui.
Je n'y croyais plus. Donc là, on a été tellement heureux qu'on a fait savoir à notre prêtre qui est au Vietnam.
Oui.
Là-bas, c'est aussi la fête de savoir qu'ils vont pouvoir enfin disposer de l'eau potable en plus grand nombre pour un grand nombre de villageois. Alors, je signale en passant quand même que l'eau potable que nous fournissons au niveau du presbytère, elle est offerte à tout le monde, sans discrimination de religion, ni politique.
Ah oui, c'est bien.
Et elle est gratuite.
Ah, elle est gratuite.
Elle est gratuite en plus.
Mais alors, ça c'est grâce au fond de ce monsieur, ou bien parce que vous aussi, vous avez une association ?
Mon association et la sienne, nous avons coopéré ensemble. Il a fourni le matériel,
oui.
Et dans le matériel, il nous garantit le transport jusqu'à sur place. Et nous sommes là, c'est parce que nous avons investi, c'est dans tout ce qui est démarches administratives et tout, c'est très long. Deuxièmement, c'est nous investir aussi sur place dans les transports pour dans l'essence et tout ça, pour transporter tout ce matériel et sur place. Et enfin, le temps passé là-dessus... Et aussi à la formation d'une équipe de maintenance.
Oui.
Et là, sur place, récemment, nous sommes partis en juin pour installer tout ce matériel. Nous l'avons installé dans 3 écoles et collèges.
Ah oui, parce que les écoles n'avaient pas non plus l'eau.
Non, on n'avait pas. Les directeurs d'école avaient un budget qui était consacré à l'eau. Donc, ils achetaient l'eau sous forme de bonbonne qui était redistribuée aux enfants.
Ah oui.
Donc là, nous avons mis dans 3 établissements scolaires, ça atteint environ 1300 enfants. Et puis nous avons distribué dans 5 hameaux différents, et tout ça pour englober une région d'environ 10 000 personnes. Donc cette eau est mise à disposition de tout le monde, on peut puiser dans les rivières, dans les puits et tout, et puis de façon mécanique, on peut extraire de l'eau qui est potable et stérile. Et gratuite.
Oui, donc les gens doivent vous remercier vraiment parce que vous leur avez sauvé la vie en quelque sorte.
Oh, c'est un projet quand même de solidarité.
Oui.
Parce que c'est un projet de solidarité parce que l'eau potable concerne l'humanité.
Bien sûr.
Et surtout dans cette région, parce que le fait d'avoir installé tout ce matériel, nous avons eu d'autres villages qui ont su que ce projet s'est effectué et qui ont sollicité aussi de bénéficier de ce matériel.
Bien sûr.
Alors, ce qui m'a touché, c'est un jour, j'ai vu une habitante d'un autre village qui connaissait ça.
Oui.
Et qui m'a dit, monsieur, on a une école, on a un village, on y a environ 4000 personnes. Si un jour, on pourrait nous faire bénéficier de cela, nous sommes tellement heureux. Que cela prenne 1 an ou 5 ans d'attente, c'est pas grave. Mais pour que ça puisse aboutir. Donc, depuis, je suis reparti du Vietnam, je suis rentré ici, mais là, avec ça, au front.
Oui.
Et je suis déterminé à continuer cette démarche pour trouver d'autres fonds et pouvoir installer d'autres filtres dans ces régions.
Alors, justement, pour trouver des fonds, parce que c'est ça l'important, quelle est votre stratégie, si stratégie il y a ?
Notre stratégie, par le biais de nos adhérents, on en a environ 40.
Nous essayons de. C'est pas beaucoup, 40.
Non, mais je pense que beaucoup plus, ce serait le bienvenu. Mais ça, c'est un problème de marketing, de communication.
Oui, vous qui nous entendez sur cette radio, eh bien, vous pouvez également vous manifester. On peut lancer un appel.
Bien sûr. Donc, et ensuite, d'autre part, notre association, on fait 1 ou 2 banquets par an.
Oui.
Dans lequel nous faisons des repas vietnamiens.
Oui, et Dieu sait si vous savez bien faire la cuisine.
Donc nous faisons.
Vous participez vous-même.
Bien sûr, nous cuisinons et puis nous essayons de, par ce biais-là, d'avoir des fonds pour notre association en but de ces expéditions. Alors récemment, nous revenons de ces expéditions. Nous voulons dire que les fonds qui sont destinés à cette action.
Oui.
Nous n'y touchons pas, dans la mesure où, même dans nos voyages et tout ça, nous prenons sur
nos propres
deniers pour ne pas affecter les fonds de l'association.
Et vous-même, vous allez quand même assez souvent, je crois.
1 à 2 fois, en fond, la nécessité sur place des besoins pour l'association, en quoi l'association peut aider et évaluer et aussi faire des projets.
Et la dernière fois, c'était quand ?
Oh, c'était au mois de juin. Nous sommes revenus le 15 juin. Nous sommes restés 10 jours. Nous avons installé les 8 filtres.
Alors, comment ça se passe, cette installation ?
Les filtres sont arrivés dans le port de Da Nang. Là, nous avons assuré les transports par camion, parce que chaque colis pèse 100 kilos.
Ah oui.
Et gros comme un frigo.
Ah oui. Donc vous avez assisté à tout cela ?
Nous avons fait ça. Ensuite, nous avons évalué et assisté aussi les personnes qui doivent s'occuper de l'entretien et de la maintenance de ces appareils-là pendant le fonctionnement.
Eh bien, écoutez, un grand merci. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez nous retrouver sur notre site Internet. Et si cette émission vous a touché, eh bien, vous pouvez toujours contacter le Dr Huyn. Un grand merci à vous. Vous pouvez nous retrouver sur notre site Internet. www.radiograndciel.fr. Merci, docteur Huyn.
Merci, Christiane Blain, et merci, Grand Ciel.